Vous écoutez On lit pour vous.
L'Internet est queer, un texte de Gabrielle Anquetil, paru le 3 avril 2025 dans le magazine Québec Science. Longtemps considéré comme un refuge pour les personnes LGBTQ+, le monde de la tech deviendra-t-il un lieu d'exclusion? Brillant mathématicien, Alan Turing est connu pour avoir décrypté le code de la machine Enigma, utilisée par l'armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale, pour chiffrer ses communications. Il a aussi élaboré, en 1950, le test de Turing, utilisé encore aujourd'hui pour tester les capacités de l'intelligence artificielle. Alan Turing était aussi gay. Dans la société anglaise d'après-guerre, son orientation sexuelle illégale le fait condamner. Plutôt que d'aller en prison, il choisit la castration hormonale. Sa carrière est brisée. Il s'enlève la vie en 1954, 2 ans après sa condamnation. Bien sûr, l'homosexualité n'est plus réprimée par la loi, du moins pas dans notre pays. Malgré tout, les droits des personnes LGBTQ+, sont menacés de diverses manières. Un simple regard au sud de la frontière, où les plus grands noms du monde de la tech étaient aux premières loges lors de la plus récente intronisation présidentielle, permet de deviner que les prochaines années s'annoncent difficiles pour les personnes queer. Qu'en est-il chez nous? C'est la question que s'est posée l'organisme canadien Queer Tech, qui a mené la première étude concernant les expériences des personnes LGBTQ+, dans le secteur. Parue en 2024, celle-ci révèle que, parmi les personnes interrogées ayant subi du harcèlement au travail, 35% estiment que la cause était leur orientation sexuelle et 55% leur genre. De fait, moins de 40% des participants et participantes ont l'impression que le personnel LGBTQ+, est traité avec respect. Pourtant, le milieu de la tech semble offrir un environnement sécuritaire aux personnes queer. Selon la firme de sondage Gallup, près de 7% des gens travaillant dans le secteur de la tech aux États-Unis s'identifient à la communauté LGBTQ+, contre 4% pour la population générale. Est-ce que la proximité entre la Silicon Valley et l'un des hauts lieux de la culture queer, San Francisco, a permis d'instaurer un climat d'inclusion dans le secteur? Les personnes queer ont aussi beaucoup à apporter au monde de la tech, croit Leanne Pitchford, la fondatrice de l'organisation Lesbians Who Tech. Sortir des sentiers battus est quelque chose que les personnes issues de communautés qui n'ont ni pouvoir ni privilège doivent faire en permanence pour survivre, déclarait-elle aux médias LGBTQ Nation. En résulterait, selon elle, des personnes habituées à innover. Le changement de cap aux États-Unis a de quoi nous alarmer. Certaines des technologies que nous utilisons tous les jours sont possédées par des gens qui s'associent ouvertement à des idéaux extrémistes. La chasse aux personnes trans, par exemple, devrait nous révolter toutes et tous. Car au-delà de l'apport de ces personnes aux outils de demain, l'atteinte aux droits fondamentaux de la personne devrait nous faire agir. C'était L'Internet est queer, un texte de Gabrielle Anquetil, paru le 3 avril 2025 dans le magazine Québec Science.
Chute historique des passages à la frontière canado-américaine, un texte d'Annabelle Caillou, paru le 15 avril 2025 dans Le Devoir. Le mouvement de boycottage des États-Unis se fait de plus en plus ressentir à la frontière terrestre canado-américaine. En mars 2025, près d'1 million de voyageurs de moins qu'à la même période l'année précédente se sont rendus en voiture aux États-Unis, soit une baisse de 26 % du jamais vu depuis la pandémie de COVID-19. Selon les données du Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis, CBP, le nombre de personnes entrant en voiture dans le pays, le moyen de transport le plus emprunté par les Canadiens, est passé de 3,4 millions en mars 2024 à 2,5 millions en mars 2025. Le recul s'était déjà amorcé dès février 2025, alors que près de 500 000 voyageurs de moins avaient franchi la frontière canado-américaine, soit une baisse de 17 % comparativement à février 2024. Il s'agissait du plus bas nombre d'entrées enregistrées depuis avril 2022, date à laquelle les mesures sanitaires, quarantaines et tests de dépistage venaient d'être levées. Depuis la fin de la pandémie, le tourisme avait pourtant repris de plus belle. À l'automne 2024, le nombre de voyageurs se rendant aux États-Unis par voie terrestre était plus élevé qu'à pareille date l'année précédente, atteignant même une hausse de 10 % entre novembre 2023 et novembre 2024. Menace tarifaire. Il n'y a pas de doute, ça coïncide avec les politiques tarifaires du président Trump, laisse tomber Marc-Antoine Vachon, titulaire de la chaire de tourisme Transat de l'UQAM. Rappelons qu'avant même son assermentation, le 20 janvier 2025, Donald Trump avait menacé d'imposer des tarifs douaniers de 25 % sur les biens canadiens à compter du 1er février. Il évoquait aussi sa volonté d'annexer le Canada pour en faire le 51e État. Ce n'était qu'un drapeau rouge à l'époque. Les gens attendaient de voir si c'était du bluff avant de changer leur plan, note M. Vachon, qui est aussi professeur de marketing. Depuis, les tarifs douaniers ont été repoussés à maintes reprises, puis ils sont entrés en vigueur dans certains secteurs seulement et ont été mis sur pause dans d'autres. C'est très difficile pour le simple citoyen de comprendre ces politiques tarifaires. Ce qu'il retient, c'est que l'administration Trump ne veut plus commercer comme avant, qu'elle complique notre économie et il préfère faire une croix sur tout ce qui est américain, voyage inclus, résume le professeur Vachon. Des données publiées par Statistique Canada la semaine dernière vont dans le même sens. Le nombre de Canadiens revenant des États-Unis en voiture a diminué de près de 32 % le mois dernier par rapport à mars 2024. Il s'agit du troisième recul mensuel d'affilée observé sur un an. L'Agence fédérale a d'ailleurs comparé cette baisse abrupte à celle enregistrée pendant la crise sanitaire. Moins de vols vers les États-Unis. De l'avis de M. Vachon, cette tendance à la baisse pourrait se prolonger pendant plusieurs mois et risque d'être encore plus marquée. Et ce particulièrement dans le transport aérien, qui semblait jusqu'ici ne pas être affecté par les tensions politiques entre Ottawa et Washington. Selon les données de CBP, le nombre de passagers voyageant par avion du Canada vers les États-Unis a même légèrement augmenté ces derniers mois, comparativement à l'année précédente. En mars, par exemple, ils étaient 922 507 contre 876 387 en mars 2024 à passer la douane américaine. Un vol, ça se planifie plusieurs mois d'avance et c'est plus difficile à annuler qu'une excursion en voiture, souligne M. Vachon. En janvier, personne ne s'inquiétait vraiment. Aujourd'hui, les Canadiens sont nombreux à remettre en question un voyage aux États-Unis. Fin mars, la firme OAG a publié une analyse montrant une chute de plus de 70 % des réservations de vols du Canada vers les États-Unis via des sites comme Expedia, Flight Hub ou Hopper au cours des 6 prochains mois comparativement à la même période l'année précédente. Climat d'insécurité. Et ce n'est plus seulement une question de valeur personnelle et de boycottage. Certains ressentent réellement une insécurité à l'idée de se rendre aux États-Unis, ajoute le professeur de marketing, citant en exemple la communauté LGBTQ+, et la communauté universitaire régulièrement visée par les critiques de l'administration Trump. Aujourd'hui, les Canadiens sont nombreux à remettre en question un voyage aux États-Unis, dit Marc-Antoine Vachon. Des médias ont par ailleurs rapporté que des voyageurs étrangers, dont la Canadienne Jasmine Mooney, ont été envoyés dans des centres de détention ou de traitement pendant plus d'une semaine. De quoi susciter l'inquiétude au nord de la frontière. Ottawa a justement mis à jour ses conseils aux voyageurs se rendant au pays début avril, les avertissant qu'ils pourraient faire l'objet d'un examen minutieux de la part des gardes frontières et d'une possible détention en cas de refus d'entrée. C'était « Chute historique des passages à la frontière canado-américaine », un texte d'Annabelle Caillou paru le 15 avril 2025 dans Le Devoir.
Laure Leroy, La femme derrière Zulma, un texte de Catherine Genet, paru le 7 avril 2025 dans Les Libraires. Ces livres, on les remarque à leurs motifs de couleurs vives, à ce triangle en haut, au centre, où loge le nom de l'auteur et le titre. Reconnaissables entre tous, les ouvrages des éditions Zulma sont gages de voyage. En 1991, Laure Leroy fonde les éditions Zulma, nom qu'elle a choisi en référence à Zulma Caro, la grande amie d'Honoré de Balzac, qui était elle-même écrivaine. N'empêche, la spécialité de cette maison, ce sont les romans contemporains, et pas forcément français. Si un tiers de son catalogue est constitué de romanciers et d'essayistes de l'Hexagone, la littérature étrangère y occupe le haut du pavé. Loge, chez Zulma, une pléiade de plumes de tous les horizons, des auteurs de l'Indonésie, du Soudan, de l'Iran, de la Tunisie, de la Corée, du Ghana, de Djibouti, de la Roumanie. Du nombre, Pramwedia Ananta Tour, Hubert Haddad, Lee Seung-woo, Abdurrahman A. Waberi, Razvan Radulescu, Ni Ayikwei Parkes, Anthony Tassan, Yezu Tassan et tellement d'autres. On publie des fictions pour dire « le monde », résume habilement la femme d'affaires et de lettres. La fiction fonctionne sur l'empathie, sur la sensibilité. On s'identifie aux personnages et puis, à travers notre humanité commune, on peut vivre ces mille autres vies que nous offre la littérature et connaître aussi des gens, des cultures, d'autres manières d'être au monde. Autant écrire que la mission que Laure Leroy se donne est plus à propos que jamais. En ces temps troubles, dire l'époque comporte son lot de risques pour quelqu'un comme Azar Nafizi, autrice de « Lire dangereusement », ouvrage paru sous l'égide de Zulma il y a quelques mois seulement. À travers les pages de son nouvel ouvrage, l'Iranienne exilée à Washington dresse notamment des parallèles entre les politiques de Donald Trump et celles de l'Ayatollah Ruhollah Khomeini. C'est dire le courage de cette écrivaine. Abdelaziz Baraka Sakin est aussi l'un des auteurs phares des éditions Zulma. Le Messie du Darfour, c'est lui, idem pour La princesse de Zanzibar. Et on sent que Laure Leroy a un attachement tout spécial envers son œuvre. Soudain, le Soudan devient autre chose qu'un pays en guerre. Il y a de l'espoir, de l'humour, des universités, des voyageurs qui prennent le train. Par les nouvelles, les actualités, on a des visions très rétrécies de tous nos contemporains dans le monde et à travers la littérature, on agrandit ce monde. Peut-être qu'on agrandit son propre cœur, qu'on devient plus curieux du monde et aussi plus généreux vis-à-vis des autres. Je pense qu'on a vraiment besoin de ça dans nos sociétés. de l'importance de briser le moule. Dans un marché, celui de la France, où pullulent l'autofiction et une certaine forme de narcissisme de la part des éditeurs, ceux qui donnent leur nom à leur compagnie, Laure Leroy a su se tailler une place enviable en nageant à contre-courant. Ses premières de couverture en témoignent. Dans une mer de pages frontispice minimaliste au ton de beige, axé sur la typographie, les livres chamarrés des éditions Zulma sortent du lot. Une maison d'édition, c'est un projet collectif. C'est une équipe, c'est des auteurs, c'est des traducteurs. C'est plein de gens qui contribuent au succès et à l'existence de ces livres. Et moi, je n'avais aucune envie d'y mettre mon nom. Ce qui frappe chez Laure Leroy, c'est sa modestie. C'est une vraie éditrice, une femme de l'ombre qui se plaît dans son rôle, qui a toujours su qu'elle y serait à sa place. Écrire, ce n'est pas quelque chose qui l'intéresse. Moi, je n'ai absolument aucune prétention à l'écriture. Je reste, avec toute ma surprise et mon enchantement, devant cette capacité qu'ont les écrivains à nous emporter dans des univers, à nous faire vivre toutes ces autres vies. Je ne vois pas comment je pourrais écrire quelque chose qui soit aussi bien que tous ces livres merveilleux que j'ai dits. Oser se réinventer. Dans une classe de maître diffusée en direct depuis Montréal en septembre 2024, au bureau de Madrigal Canada, Laure Leroy raconte, avec beaucoup d'humour, ses balbutiements comme éditrice et la création des éditions Zulma aux côtés de ses amis de l'époque. Je n'avais pas l'esprit d'entreprise, mais j'avais la passion pour ce métier, la passion pour la littérature. Interrogée sur la nature de la direction artistique de la première mouture de sa compagnie, elle se fait discrète, pince sans rire, pleine d'autodérision pour la jeune femme culottée qu'elle a été. Oubliez-le, ce n'est pas grave que vous ne vous souveniez pas de ce à quoi Zulma ressemblait. Imaginez, à l'époque, j'avais 23 ans et j'apprenais. Oui, il y a eu de très beaux livres, mais un catalogue, ce n'est pas juste une liste de livres. Quelque part, c'est une sorte de vision du monde qu'on offre au lecteur. C'est en 2006 que la refonte a finalement cours, tant sur le fond que sur la forme, et en étroite collaboration avec le designer graphique David Pearson, celui à qui on doit la maquette. On publie des auteurs dont personne n'a généralement entendu parler, avec des noms que les francophones ne peuvent pas retenir. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on a fait cette couverture aussi identifiable. Cette couverture, elle dit, « Vous ne connaissez pas cet auteur, vous n'avez pas entendu parler de ce livre encore, mais vous connaissez la maison. Faites confiance à Zulma, parce que nos livres ont été choisis avec beaucoup de passion, édités avec beaucoup de minutie, beaucoup d'exigence. » Aurore Boréal. Au catalogue de Zulma, récemment mis à jour, figure, sur les premières pages, leur offre en matière de littérature islandaise. Des romans de Bergsvein Birgisson, La lettre à Helga, Sofia Bjarnadottir, J'ai toujours ton cœur avec moi, Einar Mar Gudmundsson, Les rois d'Islande, Haldor Laxness, Les annales de Brekkukot, et, bien sûr, Audur Ava Olafsdottir, la mère de Rosa Candida. Il s'agit d'un des titres les plus populaires des éditions Zulma. Près d'un million d'exemplaires auraient été vendus. Le texte a d'abord atterri sur le bureau de Laure Leroy dans un échantillon de 30 pages qu'elle a dévoré sans pour autant céder à la tentation de mettre la charrue devant les bœufs. Jamais l'éditrice ne publie de livre qu'elle n'a pas lu dans leur version intégrale au préalable. Elle s'en fait un devoir. Elle a donc dû faire preuve de patience en attendant, pendant 6 à 8 mois, la version traduite en anglais de ce livre qui allait finalement assurer la pérennité de sa maison. A-t-elle seulement eu peur de se faire damer le pion? Non, pas du tout. Elle ajoute, « On perd son temps à regarder les meilleures ventes des autres pays. » De temps en temps, bien sûr, ça se reproduit et c'est un best-seller mondial, mais ce n'est pas si fréquent. Moi, ce que je cherche, c'est des livres que j'aime. Qu'un livre n'ait pas marché du tout, qu'est-ce que ça peut faire? En tout cas, les autres ont flairé la bonne affaire depuis Rosa Candida. Force est d'admettre que toute maison de littérature française a maintenant son titre islandais. C'était « Laure le roi, la femme derrière Zulma », un texte de Catherine Genet, paru le 7 avril 2025 dans Les Libraires.
Ça ne se peut pas que ce soit si simple. Un texte d'Alice Gérard-Bossé, paru le 19 avril 2025 dans La Presse. Deux radio-oncologues et amis de longue date souhaitent transformer le traitement du cancer du sein en remplaçant une semaine de radiothérapie par une seule séance plus intense. Une méthode si efficace que, dans certains cas, les patientes échappent à l'opération. En décembre 2023, Louisette Jean, 71 ans, a reçu un diagnostic de cancer du sein après une mammographie de routine. « C'était l'horreur. J'avais peur », confie-t-elle. En raison de son âge, plus de 50 ans, et de la taille de son cancer, moins de 2 cm, elle pouvait participer à une étude menée en collaboration par le Centre universitaire de santé McGill, CUSUM, et l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. L'objectif de l'étude est de remplacer les séances de radiothérapie étalées sur plusieurs jours par un seul traitement plus puissant, administré avant l'opération plutôt qu'après, comme dans le protocole standard. Je me suis dit, pourquoi pas, dit Louisette Jean, qui s'est rendue à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont pour avoir son traitement de radiothérapie. Ce n'était pas douloureux et je n'ai pas eu d'effet secondaire. Selon le protocole, les chercheurs attendent 1 an après le traitement avant d'opérer les patientes, afin de laisser à la radiothérapie le temps d'agir efficacement. Tous les 3 mois, une échographie est réalisée pour suivre l'évolution de la tumeur et s'assurer qu'elle régresse. Quelques mois après son traitement, Mme Jean a appris avec soulagement que son cancer avait totalement disparu. C'était une bénédiction de ne pas avoir à faire l'opération. Du jamais vu. En 2016, les radio-oncologues et amis Tarek Ijal du CUSUM et Michael Yassa de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont ont fait une première étude qui consistait à administrer le traitement puissant de radiothérapie puis à opérer la patiente le lendemain. Le but était de confirmer qu'un seul traitement de radiothérapie peut être aussi efficace que plusieurs traitements après l'opération, dit le docteur Ijal. À cette époque, c'était du jamais vu. La première patiente que j'ai traitée, je n'ai pas dormi la nuit d'avant. J'attendais que le chirurgien m'appelle, se remémore le docteur Yassa. Il craignait des complications lors de l'opération. Ce fut un succès. Leur étude a démontré que le traitement avant l'opération était aussi efficace que le protocole standard et surtout, il n'a entraîné aucune complication. Le duo de chercheurs a décidé de pousser l'étude encore plus loin et d'attendre 3 mois après la radiothérapie, avant d'opérer les patientes, afin que le traitement ait le temps d'agir. Les résultats étaient positifs, mais la radiothérapie n'avait pas encore agi complètement, ont remarqué les chercheurs. Dans la version la plus récente de l'étude, qui est toujours en cours, ils ont décidé de réaliser l'opération un an après le traitement. L'étude vise les femmes de 50 ans et plus ayant un cancer peu étendu et peu agressif. Les participantes de 70 ans et plus peuvent renoncer à l'opération si la radiothérapie a complètement éliminé le cancer. En général, les femmes âgées ont des cancers moins agressifs. Une idée qui s'inspire des autres cancers. Les médecins se sont inspirés des traitements d'autres cancers, comme ceux de la prostate, des poumons et du rectum, où la radiothérapie, parfois combinée à la chimiothérapie, permet désormais de traiter les patients sans recourir à l'opération. L'idée est de mutiler moins les patients et juste d'utiliser la chimio, l'hormonothérapie et la radiothérapie pour éviter la chirurgie. Mais en cas de cancer du sein, ça n'avait pas été fait jusqu'à maintenant, souligne le docteur Ijal. À ce jour, une trentaine de patientes ont participé à l'étude qui devrait en compter un total de 80. Un an après l'opération, la moitié des participantes n'avait déjà plus de cancer et chez les autres, la tumeur avait diminué d'au moins 90 %. 5 personnes de plus de 70 ans n'ont pas eu besoin d'être opérées car elles n'avaient plus de tumeur. On est les premiers à ne pas faire d'opération, dit le docteur Yassa. Les chercheurs réalisent toutefois des suivis rapprochés, avec des rendez-vous tous les 6 mois, afin de s'assurer qu'aucune récidive n'a eu lieu. Louisette Jean est l'une de ces personnes. « Je remercie le ciel chaque fois que je sors de l'hôpital en me disant « Mon Dieu, ça ne se peut pas que ce soit si simple. » Il ne lui restera qu'à poursuivre les traitements d'hormonothérapie. Depuis le 31 janvier 2024, les femmes âgées de 70 à 74 ans sont désormais incluses dans le programme québécois de dépistage du cancer du sein, PQDCS. Les femmes de 50 à 74 ans reçoivent une lettre d'invitation pour effectuer une mammographie de dépistage tous les 2 ans. En savoir plus. Source : Registre québécois du cancer. 8402. Nombre de nouveaux cas de cancer du sein au Québec en 2022. Plus de 3000 d'entre eux ont été diagnostiqués chez des femmes de 70 ans et plus. C'était « Ça ne se peut pas que ce soit si simple », un texte d'Alice Girard-Bossé paru le 19 avril 2025 dans La Presse.